Bonjour mes frères et mes sœurs. Comprenez-vous bien la Bible? Connaissez-vous ses enseignements profondément? Est-ce que vous aimez la Bible? Aimez-vous lire la Bible? Aimez-vous apprendre ce que Dieu vous dit dans la Bible? Savez-vous que sans les enseignements bibliques, vous ne comprendriez jamais le but de la vie? Pourquoi vous êtes né? Qu'est-ce que Dieu attend en ce qui vous concerne, vous, votre attitude, votre connaissance, vos actes? Eh bien, beaucoup de chrétiens, malheureusement, en ce moment, ne connaissent pas vraiment le but de la vie. Nous, en tant que membres de l'Église, nous connaissons ce but de la vie. Seulement, la difficulté est, tout en connaissant le but de la vie, est-ce que nous faisons notre part pour arriver vraiment, en fin de compte, à ce but? Pourquoi la plupart d'entre nous, parfois dans l'Église, nous sommes tristes, nous sommes découragés, ou bien nous voulons abandonner? Pourquoi? Savez-vous que si vraiment vous connaissiez ce but, et je sais que nous connaissons, mais j'entends vraiment, si vous étiez absolument convaincu que vous êtes né pour être un jour dans le royaume de Dieu, si vous étiez absolument, je répète, convaincu, alors vous verriez les choses d'une façon différente, avec un sourire, avec le cœur tranquille, avec une attitude qui sait que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Autrement dit, ce qu'il y a en ce bas monde, voyez-vous, c'est qu'il y a ceux qui connaissent le but de la vie et qui sont ignorants, et il y a ceux qui ne connaissent pas le but de la vie et qui sont ignorants en même temps. La seule façon de connaître, vraiment, je répète, ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu veut que nous pensions, ce que Dieu veut que nous fassions en toutes circonstances, c'est d'ouvrir la Bible, de feuilleter les pages, de chercher dans la Bible en toutes occasions ce que Dieu veut que nous fassions. Eh bien, je vous dis une chose. Les prophètes de Dieu nous ont montré la voie. Les prophètes de Dieu, sous l'inspiration divine, ils nous ont dit comment arriver au but. Évidemment, le Christ lui-même nous a montré, en arrivant sur cette terre, comment choisir entre la façon de réussir et comment choisir la façon d'échouer, si vous voulez. Certes, personne ne veut échouer dans ce monde. Personne ne veut être un faible. Personne ne veut vraiment être un échec, pour ainsi dire. Mais la plupart du temps, nous sommes dans cette mauvaise voie parce que nous ne nous, nous rendons pas compte qu'il y a vraiment, en ce moment, monde, deux voies possibles à suivre. Je dis bien deux voies. Est-ce qu'il y a deux dieux? Non, mais il y a deux voies. La voie de Satan et la voie que Dieu a tracée devant nous. Si vous cherchez dans la Bible la raison pour laquelle vous êtes né, il se peut que vous ne le trouviez pas, c'est-à-dire vous ne trouviez pas les raisons pour lesquelles vous êtes né, mais si vous cherchez en appliquant dans votre vie, dans votre façon de vivre et de penser, la voie que Dieu vous indique, eh bien, la seule difficulté, c'est que, voyez-vous, souvent vous avez une objection. Vous avez souvent quelqu'un qui vous empêche d'aller plus loin. Autrement dit, nous qui sommes nés pour être un jour enfants de Dieu, après la résurrection des morts, nous ne savons pas exactement comment arriver au but même que Dieu a mis devant nous. Nous savons dans l'Église ces choses. Nous avons entendu, moi-même, presque chaque sermon que je fais, je vous parle du but de la vie. Je vous dis que nous sommes nés pour arriver un jour à ce but final. Mais ça, ce sont des paroles. La vérité, c'est que, voyez-vous, lorsque vous êtes face à une tragédie ou bien face à un ennemi, cette connaissance vous échappe. Cette connaissance vous abandonne. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans ce sermon, je voudrais vous encourager. Je voudrais vous dire pourquoi Dieu a permis à Satan de nous séduire de nous attaquer même. Pourquoi, en effet, l'existence de Satan? Est-ce que Dieu aurait pu faire les choses autrement? Certes. Est-ce que Dieu aurait pu nous donner la vie éternelle sans nous laisser, mettons, être tentés par Satan? Certes. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? C'est simple, parce que tout ce que Dieu fait est juste. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est toujours pour notre bien. Voyez-vous, commençons par le commencement. Satan n'existait pas auparavant. Non. Lors de la création, il n'y avait pas Satan. Il y avait un être archange qui s'appelait Lucifer. Lucifer signifie porteur de lumière. En français, Lucifer. Mais porteur de lumière est bien éloigné de Satan le diable. Satan, c'est le porteur des ténèbres, je dirais. Mais Dieu a vraiment donné la vie à un archange qui s'appelait Lucifer en français. Et cet archange avait tout ce que n'importe qui en ce bon monde pourrait jamais désirer. Beauté, sagesse, opulence, succès, tout ce que vous voulez. Autrement dit, Lucifer, à l'époque, était le sommet même de la réussite. Les prophètes Ésaïe et Ézéchiel en parlent. Mais alors vous direz, mais qu'est-ce qui s'est passé? Si Lucifer était en ce moment monde, et je répète, avant la création du premier couple, cette terre était occupée par les anges. Les anges de Dieu qui obéissaient à Dieu, des anges qui se sont vraiment réjouis lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, en ce sens qu'il a mis sur cette terre l'homme. Tout ça, c'était une bonne nouvelle. Et les anges s'en réjouissaient. Jusqu'au moment où, voilà que Lucifer, qui avait tout, qui jouissait de tout, a commis une faute. Savez-vous de quoi il s'agit? Quelle est cette faute, ou bien ces fautes par la suite, que Lucifer a commis? Laissez-moi vous citer brièvement la vie de Lucifer, je dis bien brièvement, d'après ce que la Bible nous dit dans Ésaïe et dans Ézéchiel. Pour vous montrer le but de la création, je sais, vous êtes au courant de tout cela, vous qui êtes membre de l'Église, mais être au courant ne signifie rien. Savoir quelque chose ne signifie rien. Allez un peu plus loin. Appliquez votre connaissance lorsque vous êtes face à des épreuves. Donc, pour revenir à Lucifer, être intelligent, être beau, être sage, vivre dans l'opulence, tout ça, c'était très bien. Mais voilà que, voyez-vous, certainement si on est loin de Dieu, si on écarte les yeux de Dieu, tout ça en nous crée une sorte d'ambition, de vaine ambition. Et c'est ce qui s'est passé avec Lucifer. Laissez-moi citer Ésaïe 14, versets 12 à 15. Dieu dit, « Tu vois la tombée du ciel, astre brillant. » Voyez-vous, astre brillant, c'est Lucifer. C'est ça la signification. Et Dieu dit, « Fils de l'aurore. » Autrement dit, c'était le commencement, la lumière. Tu es abattu à terre. Abattu? Il a été donc abattu, oui. Pourquoi? Toi, le vainqueur des nations. Autrement dit, à cette époque-là, avant la création de l'homme, Lucifer était un vainqueur. Les anges étaient sur lui. Et plus tard, lorsque Lucifer est devenu Satan, il a été le vainqueur des nations, pour ainsi dire. Toi, tu disais en ton cœur, regarde voir ça, je monterai au ciel. Voilà le danger de la grandeur, de la fausse grandeur. Souvent, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous sommes bien, nous faisons notre part, mais nous permettons à l'orgueil de nous empêcher d'arriver au but. C'est ça la difficulté de Lucifer. Toute cette opulence, toute cette sagesse, tout ce qu'il avait vraiment gagné, tout d'un coup, ça lui est monté à la tête. Il a pensé que maintenant il a quelque chose. Verset 13, Ésaïe 14. Tu disais en ton cœur, voilà, le cœur méchant, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus des anges. Je m'assierai sur la montagne, c'est-à-dire sur le gouvernement de l'Assemblée. La montagne dans la Bible, en prophétie, c'est souvent synonyme de gouvernement. Donc, à l'extrémité du septentrion. Autrement dit, septentrion, c'est là, l'extrémité, le trône de Dieu se trouve, symboliquement parlant. Et voilà que Lucifer veut être à la place de Dieu. Il veut procéder détrôner Dieu. Je monterai, verset 14, je monterai sur le sommet des nues. Autrement dit, au-dessus de tout. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Voilà pourquoi Lucifer a été écrasé. Lucifer a tout perdu. Il avait tout. Il a tout perdu. Pourquoi Dieu a dit, verset 15, toujours Ésaïe 14, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. » Autrement dit, Lucifer n'avait et n'a toujours aucune puissance, aucun pouvoir autre que Dieu ne lui donne ce qu'il a. Tout ce que Lucifer avait reçu, tout ce que Satan aujourd'hui a, c'est tout ce que Dieu lui a accordé d'avoir. Et lorsqu'il a été précipité dans le séjour des morts, là, dans les profondeurs de la fosse, Lucifer avait perdu son éclat. Il avait encore, certes, ce que Dieu lui permet d'avoir, mais il n'avait plus le même éclat, plus la même intelligence, plus la même sagesse. Il est devenu, je dirais, le vil des créations de Dieu. Voilà l'histoire de Lucifer qui est tombé à cause de son orgueil, à cause de son désir d'être comme Dieu, de prendre la place de Dieu. Ce qui s'est passé dans sa chute, Lucifer a amené avec lui les anges, un tiers des anges, d'après la Bible, qui l'ont suivi. Oui, parce que les anges aussi sont des créatures, créations. Ce ne sont pas des êtres immortels, non. Lucifer n'était pas immortel. C'était une création divine. Les anges étaient et sont toujours une création. Voilà pourquoi un tiers des anges ont suivi Lucifer dans cette rébellion. Et le résultat, c'est tout à fait normal. Lucifer, comme le tiers des anges, ont été déchus. Et ce tiers des anges est devenu des démons. Voilà pourquoi vous avez des démons aujourd'hui de par le monde. Voilà pourquoi il y a des gens qui s'entretuent dans les rues aveuglément. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont hantés par des démons. Les démons ne peuvent absolument rien faire pour vous ou contre vous, à moins que vous vous cédiez à leurs désirs, à moins que vous suiviez leurs tentations, leurs mauvaises idées comme celles de Lucifer. N'ayez jamais crainte d'un démon quelconque. N'ayez jamais peur de Satan. Pour autant que vous soyez sous la protection divine, Satan ne peut rien faire car vous avez une sorte de barrière autour de vous. Aujourd'hui, brièvement, je répète cette histoire de Satan. Le fait est que, voyez-vous, la plupart des gens ne croient ni à cette histoire dont je viens vous raconter brièvement l'existence, ni même à ce qui se passe lorsque Satan nous hante, nous empêche de suivre Dieu. Savez-vous pourquoi aujourd'hui nous avons tant d'imbécilités sur cette terre? Tant de crimes, tant de guerres. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi tout d'un coup les gens perdent la tête, je dirais? Eh bien, c'est à cause de Satan. Parce que Satan voudrait absolument arrêter, et il ne pourra pas, le but suprême de la vie en ce qui concerne l'être humain. Satan ne veut pas que l'homme, vous et moi, nous arrivions au but. Non, Satan fera tout pour empêcher cette réalisation. Voilà pourquoi, je répète, Aujourd'hui, lorsque vous voyez ces choses arriver, lorsque vous voyez même les difficultés, les guerres, les sentiments de haine les uns envers les autres en ce bas monde, tout ça, c'est sous l'inspiration de Satan. Notez encore ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 3 et 4. Et là, vous aurez une meilleure idée de ce qui se passe en ce bas monde. Jean écrit « Un autre signe apparut encore dans le ciel. Et voici, c'est un grand dragon. Ce grand dragon, c'est le Lucifer ancien. Ce grand dragon, c'est Satan le diable. Un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, il y avait des diadèmes, 7 diadèmes. Ensuite, sa queue entraînait le tiers des étoiles. C'est ce que je viens de vous dire. Le tiers des anges. Elle les jetait sur la terre. Voilà pourquoi ces démons sont sur cette terre. Le dragon se tint devant la femme, c'est-à-dire l'Église, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Oui, Satan a même attaqué le Christ, comme vous savez. Satan voulait tuer le Christ lorsque celui-ci était un enfant, un bébé. Vous connaissez l'histoire. Mais certes, Dieu a protégé le Christ. Certes, le Christ était sous la protection divine et des anges qui étaient restés fidèles à Dieu. Donc, Satan allait dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Voyez-vous, tout ça c'est réel. Mais pourquoi, direz-vous, pourquoi Dieu a-t-il fait les choses de cette façon? Dieu n'est-il pas tout-puissant? Certes, il l'est. Dieu n'aurait pas pu faire autre chose autrement? Certes, il aurait pu faire autrement. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu empêcher la rébellion de Satan? La réponse est toujours oui. Tout ça, voyez-vous, c'est un raisonnement humain. Ce que Dieu fait est toujours parfait. Dieu connaît les choses mieux que nous. Si Dieu a choisi ainsi, si Dieu a permis à Satan le diable, pour ainsi dire, de nous tenter, afin que nous puissions nous choisir pour arriver au but, dans ce cas-là, dites-vous à vous-même, avec certitude, avec courage, avec compréhension, que c'était la meilleure façon d'arriver au but. Ça, ayez toujours en tête. Quel que soit votre esprit critique, quelles que soient vos questions, sachez une chose, mes frères et mes sœurs, que ce que Dieu fait est toujours juste. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel nous pourrions arriver au but plus facilement que la façon dont Dieu a fait les choses. Il a permis à Satan de séduire l'humanité. Parce que Dieu voulait et veut toujours donner de la liberté à l'homme. Dieu ne veut pas que nous agissions comme des perroquets. Dieu veut que nous puissions être indépendants dans notre façon de penser, de raisonner et de suivre les instructions que Dieu nous donne. Voilà pourquoi Dieu a permis à Satan de nous séduire. Voilà pourquoi Dieu a permis à Satan de dire des mensonges à nous tous, même au sujet de Dieu. Mais le fait est que si nous connaissons Dieu, si nous connaissons la nature divine, nous ne nous laisserons pas séduire par Satan. Une fois encore, je répète, demandez-vous pourquoi Dieu nous a créés. Je répète, et je dis presque ça dans tous mes sermons, Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains, physiques, de la poussière de la terre. Mais ça, ce n'était pas la création finale. Ce n'était pas le but. Ça, c'était le commencement. Dieu veut qu'en fin de compte, lorsque nous serons nés de l'Esprit, lorsque nous serons nés après nous être repentis de nos péchés, être baptisés, avoir reçu le Saint-Esprit, que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et en fin de compte, un jour, lors de la résurrection des morts, être nés de Dieu en tant qu'être spirituel. Ça, je vous l'ai dit, je dis toujours, je dirai encore, ça c'est l'histoire, brièvement parlant. Mais voyez-vous, c'est tout cela, c'est très bien, d'abord si nous comprenons, ensuite si nous allons jusqu'au but, ensuite si nous respectons ces commandements que Dieu nous donne, ensuite en toute chose, nous ayons en tête que Dieu est avec nous. Dieu veut que nous puissions réussir et non pas nous voir échouer. Ça, c'est le secret. La plupart du temps, mes frères et mes sœurs, nous sommes faibles, nous nous décourageons. Nous nous laissons Satan avoir le dernier mot. Satan ne devra jamais avoir le dernier mot. C'est Dieu, c'est le Christ qui ont le dernier mot. Voyez-vous, nous sommes quoi aujourd'hui? Poussière. Nés de la poussière de la terre, et la Bible dit que nous retournerons à cette poussière de la terre. Mais un jour, je répète, cette poussière de la terre deviendra, spirituellement parlant, enfant de Dieu, être éternel, spirituel. Alors, continuons cette histoire. Dieu nous a créés en nous accordant le libre arbitre. Voilà pourquoi il a mis sur cette terre les tentations que Satan nous fait. Il a permis à Satan de nous tenter. Et voilà pourquoi il existe aujourd'hui, et ça c'est maintenant le sujet de mon sermon, deux voies à suivre, deux voies possibles. L'une de ces voies, c'est la voie que Dieu a tracée devant nous. L'une de ces voies, c'est la voie du succès, la voie de la réussite. L'autre, c'est la voie de Satan, la voie de l'échec. C'est justement cette voie que Lucifer a prise et, en fin de compte, il est tombé. Commencez-vous à comprendre. D'abord, vous avez entendu en quelques mots l'histoire de Lucifer. Mais ensuite, maintenant je vous dis aussi en quelques mots, votre histoire est la mienne en ce qui concerne ce qu'il faut faire. Nous avons le choix devant nous. Suivre la voie du Christ qui est venu nous délivrer des mains de Satan, ou encore la voie de Satan, auquel cas nous sommes déjà perdus d'avance. Commencez-vous vraiment à comprendre? Les deux voies possibles devant nous sont très faciles. L'une, c'est la voie divine, la voie du succès, la voie d'arriver au but. L'autre, c'est la voie satanique, la voie de l'échec, la voie de tristesse, la voie de décadence, et qui nous mène vers la catastrophe finale. Voilà pourquoi je répète, il existe devant nous aujourd'hui deux voies possibles. Celle que Dieu a tracée et qui est pour notre bien, et celle que Satan, toujours par la permission divine, a choisie et qui nous mène vers la destruction totale. C'est cette voie de la destruction que l'humanité a suivie d'une façon générale dès le commencement. C'est pourquoi nous avons eu l'histoire de Tour de Babel. C'est pourquoi nous avons eu Sodome et Gomorre. C'est pourquoi nous avons eu des guerres et des disputes en ce bon monde. Voyez-vous, tout ça c'est réel. Nous avons aujourd'hui une technologie fantastique. L'homme a pu inventer aujourd'hui des choses, enfin inventer c'est pas le mot, découvrir des choses qui dépassent son imagination. L'homme est capable aujourd'hui, vraiment, de par ses inventions, de terminer toute vie humaine sur cette terre plusieurs dizaines de fois, alors qu'une seule fois serait amplement suffisante. Je dis ça souvent. Je disais ça à la radio sur Luxembourg il y a longtemps. Mais déjà à cette époque, il y a 30 ans, 40 ans, l'homme avait assez inventé des nucléaires, des engins nucléaires, pour détruire toute vie humaine sur cette terre plusieurs dizaines de fois. Alors, ce sermon, je répète, a pour titre « Les deux voies possibles ». Les deux voies devant nous. Celle de Satan, qui est la voie de destruction. Celle du Christ, qui est la voie d'arriver au but suprême pour lequel nous sommes nés. Tout ce qui est mal ou mauvais, tout ce qui est détestable, tout ce qui est haine, tout ce qui est guerre, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est convoitise, tout ça, c'est la voix de Satan. Examinez-vous vous-même. Avez-vous des sentiments de convoitise? Alors vous êtes vous sur la voie satanique. Avez-vous la haine dans votre cœur? Alors là, vous êtes sur la voie satanique. Comment sortir, direz-vous? Eh bien, la réponse est simple. La seule façon de sortir d'une voie, c'est d'entrer dans une autre voie. Voilà pourquoi abandonnez ces sentiments et tournez-vous vers Dieu, prenez cette Bible, étudiez-la et mettez en pratique tout ce que Dieu vous dit afin de réussir. L'influence de Satan sur chacun de nous est énorme. Parce que nous voyons ça autour de nous. Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas que Dieu a caché sa vérité pour le moment, parce que Satan est encore roi de ce monde, si vous voulez. Et Satan aurait beaucoup de puissance pour détruire beaucoup d'hommes. Voilà pourquoi Dieu a aveuglé les gens, afin qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne pêchent pas volontairement. Je répète, si Dieu nous a ouvert les yeux, si Dieu veut que nous puissions voir et comprendre, dans ce cas-là, nous sommes responsables. Je dis, nous sommes vraiment responsables de faire ce que nous avons appris, ce que nous approuvons, et ensuite d'arriver vraiment au but malgré les tentations de Satan, malgré les découragements qu'il nous cause, malgré toutes les mauvaises idées qu'il nous met dans notre esprit. Je dis, tout ce qui est contraire à la bonté divine, tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu, ça vient de Satan. Rejetez-le. Ayez le courage de dire non, comme le Christ a dit, « Retire-toi, Satan. » C'est cette force, ce n'est pas notre force, c'est la force de Dieu. Le Christ est le Créateur suprême. Satan est le destructeur sous la permission divine. Il y a plusieurs années, lorsque je suis venu à comprendre cette vérité, ça date de 1956-57, j'avais rencontré M. Armstrong, qui à cette époque, en tant qu'apôtre, dirigeait l'Église, humainement parlant, et je l'ai entendu expliquer cette vérité que je vous explique maintenant d'une façon très simple. Parce qu'il avait, lui, le talent de mettre les choses tellement faciles à comprendre sous nos yeux. Il avait dit, il y a deux voies possibles en ce bon monde. Ces deux voies dont je vous parle. Mais il a décrit ces deux voies d'une façon différente. Il dit, la voie qui consiste à prendre et la voie qui consiste à donner. Vous savez, c'est très intéressant. La voie qui consiste à prendre, c'est la voie de fierté, d'orgueil, d'égoïsme. Et c'est ce que cette nature humaine, sous l'influence de Satan, voudrait nous pousser. Donc, prendre quelque chose, surtout prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. La convoitise, c'est quoi la convoitise? C'est quelque chose auquel, à laquelle, ou bien auquel nous n'avons pas droit. Mais nous le voulons. Et qui est contraire à l'ordre de Dieu. Donc Satan nous pousse vers la convoitise. Bien que cette convoitise soit, comme vous le savez, le 10e commandement. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas. Et Satan nous pousse vers cette direction. Satan veut que vous soyez égoïste. Voilà pourquoi, entre ces deux voies, la voie qui consiste à prendre, c'est la voie satanique, et la voie qui consiste à donner, c'est la voie de Dieu. Dieu donne tout. Tout ce que vous avez vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. La vie, les promesses, l'air que nous respirons. Autrement dit, sans Dieu, nous ne pourrions pas exister. Vous n'avez absolument rien fait de par vous-même sans que Dieu vous permette de le faire, sans que Dieu vous donne la force. Vous ne pouvez absolument rien faire. Autrement dit, je répète, tout ce que nous avons pris, pour ainsi dire, de Dieu. C'est un cadeau. C'est une bénédiction. Ça, c'est la voie de Dieu. Je répète. D'autre part, tout ce qui sort de cette de ce domaine. Autrement dit, si vous faites ce que Satan vous pousse à faire, la convoitise, la méchanceté, les guerres, la haine, tout ça, ça vient de Satan et c'est l'autre voie. Je répète, les deux voies possibles. L'une consiste à prendre, l'autre consiste à donner. L'une, la première, c'est la voie de Satan, la deuxième, c'est la voie divine qui nous permet d'arriver au but. Notez du reste ce que le Christ a dit et dont parle l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, verset 35. Là, il y a un verset, si vous voulez, qui ne se trouve pas directement dans les autres parties de la Bible. Autrement dit, les évangiles ne parlent pas de cela de cette façon-là. C'est une phrase que le Christ a prononcée et que l'apôtre Paul répète ici dans Actes chapitre 20, verset 35, qui révèle cette vérité, je dirais, simple, cette vérité élémentaire. J'ai lu Actes 20, 35, le Christ a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce sont les paroles du Christ, de notre Sauveur. Regardez voir. Il a défini exactement la même chose en disant, plus vous donnez, plus vous recevez. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a tout donné. Le Christ a donné sa vie. Il a souffert. Il s'est laissé haïr par les hommes. Il s'est laissé vraiment être maltraité par les hommes. Mais il a tourné l'autre joue. Il aurait pu faire autrement. Dieu le Père aurait pu faire autrement. Mais comme j'ai dit, lorsque vous étudiez la Bible, sachez une chose, que comme Dieu fait les choses, c'est toujours la meilleure façon d'arriver au but. C'est quoi le bonheur? Êtes-vous heureux? Eh bien, examinez-vous vous-même. Quelle que soit votre richesse, quel que soit les talents que vous avez, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que j'ai vraiment gagné moi-même? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas vraiment reçu de Dieu? Ensuite, qu'est-ce que j'ai que je ne puisse pas partager avec les autres? Voilà. Voilà l'amour. L'amour consiste à donner et non pas à prendre. L'amour consiste à partager. L'amour consiste à tourner l'autre joue s'il le faut. L'amour consiste à avaler notre orgueil. Alors, je répète, lorsque vous commencez à vous examiner et vous vous demandez, est-ce que vraiment ce que j'ai, ce sont des sentiments d'amour? Le Christ a été courageux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il a voulu donner sa vie et renoncer à tout ce qu'il avait, parce que son amour est pur. Sa voie consiste, et a toujours consisté, à donner. Il a donné sa vie. Il a donné tout ce qu'aucun être humain à l'époque, humain parce qu'il était sur cette terre, puisse jamais donner. Vous allez voir comment le Christ se décrit dans Jean chapitre 10. Là, maintenant, je commence à ouvrir une porte qui est très intéressante, car, voyez-vous, le Christ est humble. Satan est plein d'orgueil. Le Christ veut sauver. Satan veut détruire. Le Christ est la porte pour entrer. Satan est la porte qui se ferme. Le Christ est le chef. Le Christ est la porte. Le Christ est la voie. Ayez ça en tête, alors que je vous cite maintenant Jean chapitre 10, versets 7 à 10. Le Christ parle aux disciples, il dit encore, « en vérité, dit-il, je vous dis, je suis la porte des brebis. » Notez cela, le Christ est la porte des brebis. Sans la porte, vous ne pouvez pas entrer. Il dit, « tous ceux qui sont venus avant moi, sont des voleurs. Il parle ici maintenant des faux prophètes, ou bien des démons, si vous voulez, et des brigands. mais les brebis ne les ont pas écoutées. Autrement dit, si Dieu a ouvert votre esprit, si vous qui êtes membre de l'Église comprenez ce que je vous dis, Satan ne doit pas pouvoir vous décourager. Et Satan ne doit pas pouvoir vous détourner des enseignements de Dieu. Voilà pourquoi les christistes sont des voleurs. Ensuite, il dit, mais les brebis ne les ont pas écoutés, verset 9, je suis la porte. Voyez-vous, le Christ se présente en tant que la porte. Ensuite, comment vraiment ouvrir l'intelligence à ceux qui s'adressent à lui? Et le Christ ajoute, verset 9, Jean 10, si quelqu'un entre par moi, par la porte, il sera sauvé. Regardez voir cette promesse divine. Vous cherchez le salut. Vous cherchez à être dans le royaume de Dieu. Voilà le secret. Entrez par la porte que le Christ ouvre devant nous tous. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Autrement dit, c'est le rôle du Christ de nous mener vers le but. Tandis que le voleur, verset 10, ne vient que pour dérober. Ça, c'est le Satan, la voie satanique. Tout ce que Satan agit ou fait en nous, c'est de nous priver d'arriver au but. Donc, les sentiments néfastes, les sentiments mauvais, les sentiments de haine, de convoitise, de jalousie, tout ça, c'est la porte fermée. Ou bien, c'est la façon d'agir du voleur. Il dit, le voleur, verset 10, ne vient que pour dérober, voyez-vous, égorger, détruire. Mais moi, dit-il, le Christ, je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire vous, moi, et ceux qui se tournent vers Dieu, afin que les brebis aient la vie. La vie immortelle, en fin de compte, et qu'elles voient dans l'abondance. Écoutez-moi cette phrase. Regardez-moi cette promesse du Christ. Nous savons que le Christ ne ment pas. Vous savez que Dieu nous a créés avec des promesses et ces promesses sont toujours réelles. Alors, regardez voir. Le Christ dit qu'il est venu afin que nous puissions être dans l'abondance. Est-ce le cas? De quelle abondance parlons-nous? Où sont ces promesses que le Christ a faites? Où est-ce que vous les voyez aujourd'hui? Bon nombre de chrétiens vivent dans la misère. Bon nombre de chrétiens sont malades. Bon nombre de chrétiens sont égarés parce qu'ils ne suivent pas la voie de Christ, la voie que le Christ a tracée devant nous. Si le Christ est notre berger, suivons-le. Nous qui sommes dans l'Église de Dieu, écoutez, oubliez vos arguments personnels. Oubliez vos sentiments de jalousie. Oubliez vos sentiments d'orgueil. Suivez le berger. Le berger lui-même a tout donné pour que vous puissiez le suivre et que vous puissiez arriver au but. Voilà ce qui compte. Malheureusement, je répète, nous sommes trop orgueilleux, trop vaniteux. Et nous suivons les voies de notre chair, les voies physiques, nos sentiments charnels. Voilà pourquoi nous avons tant de difficultés, même au sein de l'Église. L'apôtre Jean était l'un des apôtres du Christ, et de même, je dirais, le plus proche du Christ, parce que Jean a su ce que c'est que l'amour de Dieu. L'apôtre Jean a parlé de l'amour dans ses écrits, plus que les autres apôtres. Du reste, l'apôtre Jean était tellement versé dans ses sentiments que le Christ, vers la fin, reposait la tête sur les épaules de Jean. Autrement dit, Jean était très proche du Christ. Regardez voir ce que l'apôtre Jean écrit, toujours en parlant de cette révélation comme quoi le Christ est notre sauveur. Le Christ est la porte. Il dit, Jean 10, verset 11, 11 à 17, le Christ a dit, je suis le bon berger. Il n'a pas dit « je suis le berger ». Voyez-vous, il y a une différence. En quelque sorte, Satan le diable est aussi un berger parce qu'il conduit les gens du mauvais côté. Le Christ a dit, je suis le bon berger. Comment définir le bon berger? Montez-le, verset 11, Jean 10. Le bon berger donne sa vie. Voyez-vous, voilà, c'est encore donné. Donne sa vie pour ses brebis. Ensuite, l'autre, Satan, ou bien le mauvais berger, le mercenaire, verset 12, qui n'est pas le berger, et il y a beaucoup de mercenaires aujourd'hui de par le monde, et à qui n'appartiennent pas les brebis. Voilà pourquoi il y a tant de mensonges sur cette terre, il y a tellement de fausses religions, si vous voulez. Parce que les gens parlent au nom du Christ, et pourtant ils ne suivent pas le Christ. Ils ne suivent pas le bon berger. Les Christistes sont des mercenaires qui voient venir le loup, abandonnent les brebis, prennent la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Voilà ce qui se passe en ce bas monde. Et c'est ça la vérité. Le mercenaire s'enfuit, verset 13, parce qu'il est mercenaire, parce qu'il n'est pas vraiment, ne se met pas en peine des brebis. Et ensuite, le Christ répète, verset 13, je suis le bon berger. Ayez en tête, mes frères et mes sœurs, toujours, les deux voies possibles. Vous suivez la voie du bon berger, vous arrivez au but, vous serez sauvés. Vous suivez la voie du mercenaire, vous n'arrivez pas au but et vous perdrez tout. Ensuite, le Christ fait une promesse formidable. Et cette promesse s'applique à vous et à moi. Il dit au verset 15, toujours Jean 10, il dit, « Le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » C'est ce qu'il a fait. Mais qui sont ces brebis? Au verset 16, il précise, il dit, j'ai encore d'autres brebis. Qui sont ces autres brebis? C'est vous, c'est moi. Et ce sont tous ceux qui, par la suite, viendront dans cette bergerie, qui suivront le Christ. Donc, le Christ, voyez-vous, n'est pas mort seulement pour les apôtres, pour les prophètes. Il est mort pour vous et pour moi, et pour ceux, tous ceux qui, à l'avenir, se mettront à sa disposition. Les gens, encore dit-il, d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Non, nous ne sommes pas la bergerie des prophètes, des apôtres. Celles-là, dit-il, il faut que je les amène. Et ça, ça couvre aussi d'autres qui n'ont pas été convertis, qui ne seront pas peut-être convertis pour le moment, mais qui le seront par la suite. Donc, ils viendront s'ajouter à la bergerie. Celles-là, dit-il, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà le but suprême de la vie. En fin de compte, mes frères et mes sœurs, la voix de Satan disparaîtra. Les mensonges, les jalousies, la convoitise, tout ça disparaîtra. Il n'y aura qu'une seule voix, la voix du Christ. Et dans ce moment-là, voyez-vous, nous pourrons dire que le but de la vie a été complété. Le Christ, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et ensuite, il dit, le Père même, verset 17, parce que je, voyez-vous, ça commence, je donne ma vie. C'est seulement simple lorsque nous comprenons. Le Christ a donné sa vie pour que nous puissions arriver au but. Les deux voies possibles ne sont pas pour nous un empêchement, au contraire. Ce sont des voies qui nous permettent d'arriver au but tout en luttant contre la voie de Satan. Et encore cette lutte, c'est celle du Christ parce que le Christ nous donne les armements nécessaires. Le Christ a dit, voyez-vous, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Est-il ainsi en ce qui vous concerne? Est-il ainsi dans tout ce que vous faites? Dans vos actes, dans vos rapports avec les autres, vous donnez quelque chose. Et peut-être même de votre orgueil, s'il le faut. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner ce qui est mal ou mauvais en ce qui concerne votre attitude pour aider quelqu'un? Autrement, vous ne donnez pas comme Christ veut que vous donniez. Nous autres qui sommes dans l'Église de Dieu, voyez-vous, nous savons tout cela. Mais est-ce que nous les pratiquerons vraiment? Il s'agit, voyez-vous, d'un changement de notre nature, de la voie de l'égoïsme à celle de l'altruisme. Un changement de l'orgueil à l'humilité. Un changement de sacrifice plutôt que d'orgueil ou d'imposer nos désirs. Voilà comment vraiment éviter de suivre la voie de Satan. Certes, il y a, je répète, deux voies possibles, mais ces deux voies ne sont pas absolument nécessaires pour nous si nous avons déjà fait le choix. Une fois que vous avez fait le choix, oubliez le reste. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur de cette tentation. Le Christ est à vos côtés. Nous qui sommes dans l'Église de Dieu, nous avons fait ce que le Christ nous a dit, de nous repentir de nos péchés, de nous faire baptiser, d'accepter le Christ en tant que notre Sauveur, et ensuite changer notre façon de vivre. Ensuite, repousser donc tout ce qui est satanique. Nous n'avons pas besoin d'être victimes des tentations de Satan. Je répète, mes frères et mes sœurs, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, et si vous continuez dans cette voie, vous arriverez au but. Soyez prêts à toute tentation de Satan. Dieu le permet. Soyez prêts, je dirais, à tout ce qui est mal ou mauvais, si, à la rigueur, ce genre d'épreuve est nécessaire pour vous. Je ne sais pas. Certains d'entre nous sont forts, d'autres sont faibles. Mais Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais sachez une chose, quelles que soient vos conditions, quels que soient vos désirs, quelle que soit votre compréhension même de ces choses, que Dieu ne vous permettra jamais à ce que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ensuite, aucun sacrifice, je répète, aucun sacrifice n'est assez grand pour, en comparaison, je dirais, aux promesses que Dieu vous a faites. Aucun sacrifice n'est assez important à comparer à la vie mortelle que Dieu vous promet. Êtes-vous capable de comprendre l'importance de cette promesse? Le Christ a dit, et je cite maintenant Matthieu 18, versets 7 à 9, et vous, c'est toujours pour nous montrer les deux voies possibles. Malheureux monde est-il, malheureux monde à cause des scandales. C'est quoi un scandale? Lorsque vous vous comportez contre les commandements de Dieu, ce sont les résultats qui arrivent. Mais dit-il, car il est nécessaire qu'il en arrive, les scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Va encore un autre avertissement. Ne soyez pas sujet à de telles choses. Ne soyez pas coupable de créer les scandales. Ne parlez pas mal de votre prochain. Ne critiquez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Vous n'êtes pas juge, le Christ est juge. Laissez Dieu agir, laissez Dieu vous guider, laissez Dieu vous montrer la voie. Si les choses ne vont pas comme vous les voudriez, si les choses ne sont pas, mettons, pour vous plaire, laissez Dieu faire. Ce faisant, vous choisissez la bonne voie. Et tôt ou tard, vous aurez la compréhension. Vous direz, mais souvent, les gens me font du mal. Surtout si nous sommes convertis. Si nous sommes convertis, regardez ce qu'il en est. Nous ne pouvons même pas trouver un travail d'aujourd'hui sabbat. Nous ne devons pas travailler. Donc, si nous observons le sabbat, nous n'avons pas le travail que nous cherchons. Je sais. Il y a d'autres cas pareil. Mais une chose est vraie. Le Christ nous a dit d'observer ses commandements, y compris le sabbat. Le Christ veut que nous puissions vivre dans l'abondance. Faites-lui confiance. Faites votre part sans vous énerver, sans perdre le courage. Et ensuite, vous verrez comment les choses vont se passer. Également, l'exemple que le Christ donne, ça c'est intéressant. Parfois, les gens ne comprennent pas que la Bible parfois c'est symbolique. Et là encore, tâchez de comprendre. Dieu a beaucoup d'humour. Dieu nous montre des choses et les appelle exactement ce qu'elles sont. Ici, le Christ parle maintenant d'un exemple. Autrement dit, si quelque chose dans votre vie vous empêche de suivre le Christ, débarrassez-vous de cette chose. C'est ça la base. Alors sur ça, il écrit maintenant Matthieu 18, verset 8. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. » Autrement dit, voilà, ça c'est symboliquement parlant, c'est juste. S'il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'obéir à Dieu, débarrassez-vous-en. Il dit, il vaut mieux, dit-il, pour toi, entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds, deux mains, et d'être jeté dans le feu éternel. Voilà. Voilà une vérité de base. Ayez ça en tête. Donc, ayez ce courage. Vous savez, il y a deux voies possibles, je répète, la voie de Dieu et la voie de Satan. La voie divine et la voie satanique. La voie qui vous amène au but et la voie qui vous amène à la destruction. De même, il y a, voyez-vous, deux mondes où nous vivons. Et oui, pensez-y. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui va à la dérive. Et ensuite, nous avons devant vous un autre monde. Un monde que Dieu nous promet. Un monde qui sera tout à fait différent de ce monde où nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en quelque sorte entre deux puissances, la puissance divine et la puissance que Dieu accorde à Satan pour notre bien. Donc, ce chiffre 2 est intéressant, entre deux mondes, entre deux puissances, entre deux voies. Mais ce qui est bien, voyez-vous, le Christ est toujours là pour nous aider. Toujours là pour nous aider à nous débarrasser des sentiments charnels. Cette lutte que nous vivons avec la puissance divine est gagnée d'avance si nous maintenons jusqu'au bout. Il y aura toujours des tentations, il y a toujours des moments où vous direz, je n'en peux plus, je sais, nous sommes tous dans le même cas. D'autre part, dites-vous, le Christ m'a-t-il créé afin que je sois sauvé, certes. Le Christ veut que j'arrive au but, certes, avec cet encouragement à aller de l'avant. Il faut que nos sentiments d'orgueil changent en sentiments d'humilité. C'est exactement l'opposé que Satan cherche à nous détruire, à nous diriger. Ayez confiance en Dieu, le bon berger, vous vous rappelez? Autrement dit, ne vous découragez jamais. N'abandonnez jamais. Face à une cruauté, tenez bon. C'est ce que le Christ a fait. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Et il nous donnera la force d'arriver au but. Tout au long de ces enseignements de Christ, nous ont montré comment faire face à Satan le diable. Même lors de la tentation que le Christ lui-même a fait face, Satan a offert au Christ tout, pour ainsi dire. Et pourtant, Satan n'avait rien. Le Christ aurait pu lui dire, écoute, tu n'as rien. Mais non, le Christ s'est soumis à cette conversation avec Satan parce qu'il nous a montré comment lutter contre Satan. Chaque fois que Satan ouvrait la bouche, c'était pour tenter le Christ. Si tu es ceci ou cela, si tu es le Fils de Dieu. En toute chose, le Christ a toujours suivi les commandements de son Père. La façon de résister aux tentations de travailler le sabbat, c'est de vous dire, est-ce que j'ai assez de confiance en Dieu? Je connais beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur travail à cause du sabbat. Je connais beaucoup de chrétiens qui n'ont pas pu résister à ces tentations. Et ils ont quitté. Pour être vraiment chrétien, nous devons être de bons soldats, soldats chrétiens. C'est ça le secret. Voilà pourquoi, je répète, si nous, qui sommes dans l'Église de Dieu, si nous comprenons ces choses, si nous faisons notre part, nous devons vraiment avoir aujourd'hui même cette confiance, cette force, cette assurance même que ce que Dieu promet dans la Bible, il peut aussi accomplir. Le Christ a dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 29 à 30, et je cite, il parle de Lot, le neveu d'Abraham. Dès le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et ils furent tous périr. Élie, il en sera de même, dit-il, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Car nous savons que le retour du Christ aura lieu dans un monde où il y aura catastrophe sur cette terre. Il y aura des moments extrêmement difficiles. Là encore, de par la permission divine, soyez courageux et restez fidèles si vous êtes encore vivant à ce moment-là et faites ce que le Christ vous dit. Ces paroles du reste que vous trouvez dans Luc sont répétées partout ailleurs, dans l'évangile selon Marc, l'évangile selon Matthieu, ainsi de suite. Ensuite, laissez-moi vous citer un avertissement que Dieu donne, surtout dans Luc 17. Tâchez de réfléchir, tâchez de comprendre. Je vous dis souvent, lorsque vous étudiez la Bible, étudiez comme si ce que vous lisez s'adresse à vous. Parce que nous qui sommes vraiment appelés par Dieu, devons être sûrs que Dieu s'adresse à nous. Regardez voir ce qui est écrit dans Luc, chapitre 17. Il est question du retour du Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas au retour du Christ, je le sais. Mais vous, moi, nous devons y croire. Mais y croire n'est pas suffisant. Si nous sommes sûrs que le Christ viendra, alors quelle sera notre attitude? Si nous avons une belle occupation, une bonne maison, beaucoup de richesses, est-ce que nous serons capables de tout abandonner pour suivre le Christ? Est-ce que nous serons convaincus que le Christ arrive vraiment, ou bien nous nous laisserons tromper ou séduire par Satan le diable? Notez-le. Luc 17, verset 31. « En ce jour-là, c'est-à-dire au moment du retour du Christ, que celui qui sera sûr de toi et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. » Intéressant. Parce que vous, cette tendance humaine, nous voudrons prendre les choses avec nous parce que nous n'avons pas assez de force, assez de confiance, assez de compréhension. Lorsque le Christ arrivera, soyez disposés à tout laisser de côté s'il le faut. Tout. Le Christ dit, donc ne rentrez même pas chez vous. Souvenez-vous, verset 32, de la femme de Lot. Qu'est-ce que la femme de Lot a fait? Elle voyait les choses et voulait retourner en arrière. Elle voulait ne pas vraiment laisser ce qu'elle avait laissé derrière. Elle a perdu sa vie. Elle est devenue une statue de sel, comme vous savez. Ensuite, le Christ précise toujours, Luc 17, verset 33, « Celui qui cherchera à sauver sa vie, ne cherchez pas à sauver votre vie, cherchez à faire ce que le Christ vous dit. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause du Christ la retrouvera. » Ensuite, le Christ répète encore une chose qui peut paraître un peu difficile à comprendre, mais si vous savez qu'aujourd'hui, tous ne sont pas appelés à comprendre la vérité, vous comprendrez pourquoi le Christ ajoute et dit, cette nuit-là, dit-il, deux personnes qui seront dans un même lit, c'est-à-dire mariés, l'un sera pris, l'une sera prise, l'autre pas. Pourquoi? L'une de ces personnes sera convertie, l'autre ne sera pas. Ça ne signifie pas que l'autre ne sera pas un jour converti, mais pour le moment, Dieu n'appelle pas tout le monde. De deux femmes, dit-il, verset 35, qui moudront ensemble dans un champ, l'une sera prise et l'autre pas. En tant que de véritables chrétiens, nous devons savoir que même si Dieu n'appelle pas quelqu'un qui nous est cher, si quelqu'un n'est pas perdu, en temps utile, si quelqu'un sera appelés. Dans toute chose, mes frères et mes sœurs, ayez l'amour comme base. Aimez votre ami, certes, aimez aussi votre ennemi. Aimez Dieu avant tout, mais s'il faut sacrifier, sacrifiez-vous vous-même comme le Christ l'a fait. Je répète, l'amour consiste à donner. Le Christ donne, Dieu donne, tandis que la voie satanique consiste à prendre. Je n'aurai pas le temps, mais laissez-moi au moins vous lire quelques versets dans Romains 12. Romains 12 vous donne une instruction remarquable en ce qui concerne comment mettre à profit vos talents. Il dit, nous avons, verset 6, Romains 12, il dit, nous avons des dons différents. Et c'est vrai. Chacun de nous, quel que soit votre âge, vous avez un certain talent. Il dit, des talents différents selon la grâce que Dieu nous a accordée. Certains, le don de prophétie. Verset 7, certains ont le talent de prêcher. Certains, verset 8, ont le talent d'exhorter. Regardez voir, l'exhortation peut aussi être un talent. Alors, est-ce le cas en ce qui vous concerne? Ne me dites pas, vous ne pouvez pas. Nous pouvons tous exhorter, nous pouvons tous inspirer du courage. Ensuite, celui qui pratique la miséricorde, celui qui a la miséricorde, qu'il la donne. Donner la miséricorde, faire preuve de miséricorde. Je paraphrase ici, voyez-vous, c'est déjà partager vos talents. C'est déjà faire profiter d'autres de vos talents. Je me rappelle l'exemple de quelqu'un, il y a longtemps, dans l'Église qui servait Dieu. Vous savez, souvent, lors de les conversations que nous avions ensemble, il dit, « Monsieur Appartient, je suis triste parce que je ne fais pas davantage. Je voudrais tellement mieux faire, tellement être meilleur chrétien. » Et il donnait, il faisait tout. Il n'avait presque rien, mais il donnait tout ce qu'il avait. Il servait. Le service que vous rendez, mes frères et mes sœurs, est indispensable pour vous montrer votre attitude. Cet homme-là, je me rappelle, même au chevet de sa mort, il disait, vous savez, je regrette de quitter ce monde parce que je n'ai pas pu donner davantage. Voilà. Voilà ce que c'est que donner. Voilà ce que c'est que la voie chrétienne. Prenez l'exemple du bon samaritain. Laissez-moi suivre brièvement, vous connaissez. Le bon samaritain, voyez-vous, n'était pas un des appelés. N'était pas comme le Lévite qui passait par là. Le bon samaritain ne savait même pas ce qui se passait. Il voit un blessé dans la rue, il le ramasse. Il l'amène à l'hôtel. Il demande à l'hôtelier, prends soin de lui. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que le bon samaritain a suivi la voie qui consiste à donner. À donner de lui-même, de son temps, de son amour, de son argent. Cette question était posée au Christ en disant qui est mon prochain. Le Christ a dit, Luc 10, versets 36 à 37, parce qu'il parle justement du sacerdoce et de Lévite. Je répète, Luc chapitre 10, versets 36 à 37. Lequel de ces trois, dit le Christ, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? La réponse était simple, on lui a dit, c'est celui qui exerce la miséricorde. Et quelle a été l'exhortation du Christ? Il dit, va et fais-toi la même chose. Commencez-vous à comprendre. Voyez-vous, ce sermon, peut-être il n'y a rien de nouveau dans ce sermon. Mais pourtant, tout ce que je vous dis, c'est de vous permettre à comprendre qu'il y a deux voies possibles à suivre. Chacun de nous est sujet à cette condition. Chacun de vous a la liberté de choisir, de prendre la voie qui consiste à donner ou la voie qui consiste à prendre. Le Christ a dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Nouveau en quoi? Nouveau en ce sens que, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Voilà la différence. Ce n'est pas une question d'aimer comme nous aimons, mais comme le Christ aime. Et il dit, à ceci, vous connaîtrez, verset 35, que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un jour, peut-être, je vous parlerai, parce que j'avais ici envie de vous parler d'Ézéchiel 6, ou les questions des armements de Dieu. Peut-être la prochaine fois, je vous parlerai, je ne sais pas. De toute façon, Dieu nous donne la force. Dieu nous donne les armes nécessaires pour lutter en toutes circonstances. Si vous avez cette confiance en Dieu, si vous avez foi en Dieu dans tout ce que vous faites, Satan, le diable, ne pourra jamais vous décourager, je répète. En toutes circonstances, mes frères et mes sœurs, dites-moi vous-même, qu'est-ce que le Christ aurait fait s'il était à ma place? Voilà la meilleure façon de vous demander vraiment comment faire le bon choix. Si le Christ est à votre place, est-ce qu'il agirait comme vous agissez maintenant? Sinon, demandez-vous, par la Bible, comment le Christ aurait agi. Et faites ce que le Christ aurait fait. Voyez-vous, nous avons en ce bas monde aujourd'hui la tentation de nous éloigner de Dieu. Autrement dit, les gens ont toutes sortes de religions d'hommes et non pas de Dieu. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas plusieurs églises, il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a que Dieu le Père suprême et son Fils le Christ. Nous sommes, nous, des ambassadeurs du Christ. Nous sommes appelés aujourd'hui pour proclamer cette vérité à tout le monde. Soyons de bons ambassadeurs, ceux qui suivent le chemin que Dieu a tracé devant nous, le chemin qui consiste à donner. Devenons vraiment des gens qui ont le cœur d'aider, d'aimer, de servir. Servez. Chaque fois que vous avez l'occasion de servir, allez-y. Vous ne pourrez jamais trop faire. Comme cet homme dont je vous ai parlé, il est mort en disant, je regrette de ne pas avoir mieux servi ou fait davantage. Rappelez-vous, mes frères et mes sœurs, en toutes choses, il y a toujours deux voies possibles. La voie divine et la voie de Satan. La voie qui consiste à donner et la voie qui consiste à prendre. Celle du Christ vous mène à la vie éternelle. Celle de Satan vous mène à la mort éternelle. Quelle sera, je vous pose la question, quel sera votre choix, vous qui connaissez la vérité ?